podcast. Hellfest 2010. Exclu Grosse Radio.
La grosse radio métal.
Salut, alors après un Face the Colossus qui était plus axé quand même sur les ambiances et sur la recherche on va dire mélodique, Poséidon sont marqués aux fondamentaux si on en juge le petit teaser que vous avez mis en ligne avec du poum poum ça en voix sec. Donc est-ce que ce retour aux sources c'est une volonté délibérée? Qui veut répondre?
Alors Francky, batterie, je pense pas que ce soit une volonté délibérée dans la façon de composer ni dans la... Dans une initiative vraiment délibérée du groupe, mais effectivement, je t'accorde le fait que je pense que les trois quarts des métalleux se retrouvent, qui ont apprécié surtout le premier album de Dagobah éponyme, What Hell Is About, se retrouveront énormément dans Poséidon, peut-être effectivement plus que dans Face the Colossus, pour pas mal de paramètres, notamment le son. Le mixage a été fait en Angleterre avec Dave Chang, le même gars qui avait fait le tout premier. Et dans la façon de composer, et je pense qu'on peut parler d'un retour aux sources. Les chansons sont peut-être plus épurées, il y a moins de riffs, beaucoup plus efficaces. Et quand tu mets tout ça à côté, je trouve qu'on se rapproche plus d'une formule Dagobah début 2000 ou jusqu'à What Hell Is About. Ça, plus le son, fait que, effectivement, pour moi, la ressemblance avec le tout premier commence à être flagrante.
Pour ce quatrième album, vous avez signé chez 13 bis Records au détriment de Season of Mist. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce changement de label?
C'était pas vraiment une motivation. C'était une fin de contrat chez Season of Mist après deux albums qui ont assez bien marché et où des deux parts les satisfactions étaient présentes. On sentait que c'était une fin de collaboration, et donc plutôt que re-signer, ou même c'est même pas arrivé sur une discussion, donc on sentait que c'était une fin de collaboration, et donc 13 bis nous a fait une proposition super intéressante et surtout super motivée. On se rend bien compte là qu'en période de pré-promo, qui sortent vraiment le char d'assaut pour faire avancer cet album et ça nous touche beaucoup et on avait vraiment besoin d'un label qui vraiment considère Poséidon comme une de ses priorités en 2010. Donc tout démarre bien et sous les meilleurs auspices pour que ce navire vogue très loin.
Comment avez-vous procédé pour composer cet album? Est-ce que le processus de composition a été le même que pour les albums précédents ou est-ce que vous avez apporté quelques changements?
Pour cet album, on est allé peut-être un petit peu plus vite que pour les autres. Shotter, de son côté, a, comme à chaque album, réuni énormément d'idées. Et après, on s'est retrouvé à faire des répètes, peut-être un peu moins au complet, mais plus par binôme, des fois moins avec Franck, des fois des entrevues avec Werther. C'est un album où on s'est fait confiance, c'est-à-dire chacun sait sa place dans le groupe, chacun connaît ses capacités, on s'est fait confiance, on a tout mis en commun et ça a donné un résultat rapide. Je pense qu'on entend, qu'il s'entend à la première écoute, c'est-à-dire une certaine spontanéité dans la composition et qui fait ressortir très vite tout ce que les gens peuvent aimer dans Dagobah et tout ce qu'on a voulu apporter, que ce soit de nouveautés ou de retour aux sources, comme a pu l'expliquer Francky. Donc pour moi, c'est une composition qui a été rapide, mais qui a été basée sur la confiance mutuelle du groupe.
Donc un album plus direct, finalement?
Oui. Énormément. Plus direct, plus radical, beaucoup plus percussif, qui va à l'essentiel, et dont je pense les structures et les refrains sont accrocheurs à la première écoute. En même temps, on sait très bien, avec l'expérience qu'on commence à avoir, que les trois quarts des titres sont énormément calibrés pour le live. Et ça, c'est quelque chose qui personnellement, et même, je pense, je parle au nom du groupe, nous excite énormément dans toute l'évolution de Dagobah, que les chansons efficaces vont exploser en live avec l'échange qu'il y aura avec le public. Je pense que sur cet album-là, il va y avoir 9 titres sur 10 qui peuvent vraiment faire de gros effets en concert. Et donc, ça, c'est ce que je dis là, c'était les propos qu'on tenait à 95% et qu'on mettait vraiment en avant sur le tout premier album. C'était vraiment, on disait, quand on compose au départ, c'est, on essaie de se projeter en live et le but du jeu c'est de faire bouger les foules. Je pense que sur celui-ci, c'est de nouveau valable et les deux pieds en avant quoi.
Ça a bougé alors. Vous avez enregistré cet album à l'Hyperion Studio, sous la houlette de Bruno Varia, votre ingé son. Le mixage lui a été confié, t'en parlais tout à l'heure, à Dave Chang. Vous avez donc décidé d'arrêter la collaboration avec Too Madsen ?
Oui, ben, je pense qu'on peut... Un peu comme Season of Mist, tout s'est passé en bon terme. Donc on avait fait What Hell Is About et Face the Colossus avec Too Madsen. Deux albums, pour moi c'est encore une page qui se tourne, une page sympathique avec des bons souvenirs, notamment le What Hell Is About qui pour la première fois nous avait mis tout le groupe dans une petite pièce pendant un mois, ce qui nous fait apprendre énormément de choses. On avait fait toutes les prises mix et master au Danemark, donc super souvenir. Le Face of Colossus s'était déroulé de façon un peu similaire à Poséidon, dans le sens où les prises de son avaient été faites à Hyperion avec Too Madsen. Et par contre le mix au Danemark, où Shouter était monté seul avec Too Madsen, mixé le Face of Colossus. Et là pour Poséidon, on est revenu à peu près la même formule, prise de son à Marseille dans un studio qu'on connaît bien, où pour nous c'est un peu la maison, avec notre ingé son live. Et le mix chez Def Chang, le gars qu'on avait embauché sur le tout premier album éponyme. Donc un son plus radical, c'est flagrant qu'on reconnaît sa patte et sa touche dès les premières notes. Pourquoi cette fin de collaboration ? Face of Colossus, là je parle peut-être plus pour ma part personnelle, mais je pense que ça rejoint un peu la majorité du groupe. Il y a une petite déception dans le mix. Tu disais tout à l'heure en début d'interview, je pense que beaucoup de fans et de journalistes l'ont trouvé. Il y a eu un déséquilibre qu'on a ressenti au niveau des arrangements, des samples, des symphonies, des atmosphères, qui fait que certains fans qui aimaient le côté brut, efficace, radical que desservait Dagoba depuis 10 ans, n'ont pas vraiment compris et je le conçois de façon assez évidente. Donc on s'était dit tournons la page pour Def Chang nous a paru un choix évident, peut-être inconsciemment, tout ça n'était pas délibéré, mais un retour aux sources était nécessaire et bénéfique au groupe. Mais toujours de super bons contacts avec Too Madsen. Je trouve que sur What Hell Is About, il a fait un son qui est pour moi un des plus gros européens sur une dizaine d'années. Une des productions que je trouve. C'est pas parce que c'est mon groupe, c'est vraiment en tant que fan de métal externe. Je mets What Hell Is About, il a une touche à lui. C'est, on dirait, un mix métal bodybuildé, comme peuvent faire des Américains. Et je trouve que là, il a frappé très fort. Après, sur les autres albums, les mix sont tellement subjectifs que Face of Colossus, il va y avoir une personne qui va trouver les arrangements et le côté symphonique excellent. Quelqu'un qui aime bien le côté très très froid d'un Fear Factory, il va pas du tout aimer. Donc ça, c'est tellement subjectif que ça rentre vraiment dans le cadre du goût et des couleurs. Donc
Ça se discute pas.
Ça s'apprécie ou ça s'apprécie un peu moins. Et là, effectivement, on est revenu à quelque chose de plus direct dans les gencives. Qu'on pouvait retrouver sur les deux premiers.
Combien de temps pour enregistrer cet album ? Tout compris, hein.
En fait, on a fait une partie des prises dans des endroits séparés, donc la basse d'un côté, on a fait le chant aussi a été élaboré d'un autre côté. Donc finalement, je pense que ça a été étalé sur à peu près un mois, mais au final, on a passé qu'une quinzaine de jours à Hyperion, donc, où là, on a donc tout réuni. Moi, j'ai enregistré les guitares à ce moment-là parce que j'avais besoin de le faire dans ces conditions-là. Et c'était le bon moment pour tout réunir et avoir enfin une idée de l'album complète avant de l'envoyer au mix. Donc ça a été une quinzaine de jours, une quinzaine de jours de prise avec peut-être pendant les trois mois précédents, pas mal de travail personnel de chacun pour bien préparer son arrivée. Pour ta part, peut-être. Et après, une dizaine de jours de mix. Okay. Donc voilà, pour moi, c'est un album de... C'est un travail de un mois qu'on a réussi à préparer peut-être un petit peu plus à l'avance que d'habitude.
Dagoba semble prendre un rythme d'un album tous les deux ans, ce qui est quand même un rythme assez soutenu. Est-ce que deux ans, c'est un rythme naturel pour vous, ou est-ce que vous vous forcez à sortir des albums régulièrement, sachant qu'entre-temps, il faut aussi tourner?
Peut-être que chanteur est plus apte à répondre.
Ouais, moi, en fait, j'arrête jamais de composer, donc en tournée, dès que je suis chez moi, j'essaye de mettre à plat un maximum d'idées, de riffs. Pour certains, ça peut paraître court, mais pour d'autres, peut-être composer pendant deux ans, finalement, ça représente pas mal de temps d'un point de vue travail personnel. Je sais pas, ça marche comme ça. Hein. Après, on se fixe pas de règles en particulier. Les idées elles tombent, on arrive à les mettre en place, c'est comme ça.
C'est plus un rythme naturel finalement.
Ouais, et puis il y a certaines recettes qui se sont instaurées. Le groupe maintenant a plus de 10 ans, voilà les automatismes qui font que une idée amenée de chanteur au local, tac tac tac, une écoute, une méthode de travail, un membre du groupe qui va arranger la structure, un autre membre du groupe qui va trouver le pont, l'idée et le flow général du titre, c'est souvent le chanteur qui l'amène. Et après, en répétition, l'englobage total ou la structure définitive se fait en groupe, et où chacun vraiment apporte sa petite touche. Et ça va très vite faire le titre bien arrangé, avec la mise en place qu'il faut au bon moment. Le petit détail d'Agoba reconnaissable à un moment donné. On sait très bien quel son va être mis en avant sur telle seconde. L'intro, l'outro, tout ça c'est des trucs qui vont vite. Pas comme si c'était notre première collaboration. Donc c'est pour ça que des fois on peut brûler les étapes. De belle façon, je vais dire. C'est-à-dire, ça fait pas travail bâclé, ça fait efficace et temps gagné, disons.
Francky, avec Isaacar, vous avez un projet parallèle qui s'appelle Blazing War Machine. On va faire une petite incursion du côté de ce groupe-là. Quel accueil a reçu votre premier album ?
Alors, je vais dire un album qui a été, je pense, un peu une surprise dans le métal français sur pas mal de paramètres. Déjà la façon dont c'est sorti, je dirais pas black pour pas froisser les fans de True Black, je dirais metal extrême avec des influences assez différentes. Il y a un membre du groupe qui est très influencé heavy epic, c'est le claviériste, donc avec des orchestrations. Le chanteur du groupe est très très metal extrême, très 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 True Black. Je peux pas dire que c'est True Black, pas du tout même, ni Black Symphonique, parce que je pense que les fans seraient un peu de True Black seraient froissés. Donc je préfère dire Metal Extrême Symphonique.
Et bon accueil ?
Excellent accueil, on a fait une opération sortie digitale avec une vente en ligne où le public choisit le prix qu'il veut mettre. Et ça reçoit un certain engouement. Les fans sentent très bien que l'investissement qu'ils font va directement à l'artiste, sans passer par un label. Et tout le monde connaît la crise du disque actuelle. Disons que pour une petite autoproduction comme ça, c'est exactement l'effet et le résultat qu'on voulait. On n'a pas une ambition gigantesque pour ce projet. On le fait juste dans le temps qui nous reste, et avec beaucoup de cœur et beaucoup d'investissement dans vraiment ces 10 titres.
C'est vrai que ça rejoint la question que je faisais tout à l'heure. À l'album tous les deux ans, on trouve encore le temps d'avoir un autre projet. Vous êtes motivés, les mecs?
On essaie de passer tout notre temps à faire que de la musique. Comme je dis souvent dans les interviews, c'est pas évident de gagner sa vie en étant musicien de métal, surtout en France. Donc, comme on va souvent voir, souvent en Scandinavie, les musiciens vont avoir plusieurs projets. Je pense que c'est autant pour le plaisir de jouer de son instrument que de rencontrer des nouvelles personnes, d'être sur scène le plus possible. mais aussi de pouvoir joindre les deux bouts toute l'année et de ne pas avoir un boulot de laveur de vitres à côté ou convoyeur de voitures. Et ça, c'est quand même un luxe que, assez dur à atteindre. Mais je pense que quelqu'un qui s'en donne les moyens et qui est actif toute l'année et vraiment sur le métal peut arriver à joindre les deux bouts avec plusieurs projets et un emploi du temps bien régulier.
Dagoba, c'est un des groupes français, une des locomotives du métal français, on va dire. Comment ça se passe au niveau de l'exportation de votre musique? Comment êtes-vous perçu à l'étranger? Vous avez des retours?
À l'étranger, ça dépend des pays, mais de manière générale, partout où le disque est disponible, ça se passe plutôt bien. Il y a des pays comme l'Allemagne qui se sont débloqués récemment, où le groupe marche bien, on peut aller là-bas faire des têtes d'affiche en faisant des concerts corrects. Récemment, on est allé jusqu'en Russie, où on a joué, on a fait deux dates, ça s'est très bien passé. En Hollande, tous les pays aussi qui sont frontaliers, la Belgique, la Suisse, qui étaient des pays vers lesquels on s'est très vite exporté, même avant de sortir, je crois même pour le premier EP, on est allé jusqu'en Suisse. Et donc l'accueil est super bon, peut-être en Angleterre ça n'a pas pris parce qu'il y a eu peut-être des choses un peu bizarres au niveau de on va dire des journalistes, de Terrorizer qui nous avaient un peu descendus, donc ça a un peu bloqué les choses avec l'Angleterre, ce qui est dommage parce que c'est vraiment un pays qui est porteur, je pense, pour nous. On n'a pas eu beaucoup l'occasion d'y jouer non plus. Donc si en Europe, c'est peut-être le seul qui ne réagit pas à 200%, mais on a des très bons échos en Espagne, ça marche très très bien pour nous. En Italie, on sent aussi que ça se passe, en Autriche aussi, enfin à peu près partout en Europe, on a eu un super accueil. On joue jamais dans des salles vides, et c'est déjà, à mon avis, la première preuve.
C'est clair. Quelques mots sur les pressions exercées par les groupuscules catholiques et certains politiques pour empêcher la tenue de ce Hellfest.
Bah, moi, je les emmerde.
Moi, ouais... forcément on est un peu déçu, un peu même atterré du fait que ça me semble assez arriéré comme opération, très rétrograde et très très peu ouvert d'esprit pour des gens qui prônent cette tolérance. Donc bon, mais je pense que comment dire, pour contrecarrer ce Hellfest, il n'y a pas que vraiment la religion, il y a tout le côté franchouillard qui aime pas ça. Il trouve que ça fait sale, les gars avec des cheveux longs. Il y a ça que je dis souvent, c'est que ce côté mal vu du métal commence à vraiment insupporter tout le milieu métal. Et on se rend vraiment compte que dans les autres pays, ça marche pas forcément comme ça, quoi. Donc c'est carrément un mouvement ignoré par les gros médias. Et ça devient dérangeant quand ça ramène énormément de public.
Sans support média, il y a 60 000 personnes, quoi.
Donc ça commence à intéresser les médias quand il y a beaucoup de monde qui vient de toute l'Europe voir le Hellfest. Là, quand c'est des histoires de gros sous, ils commencent à venir voir. Ils commencent à interviewer les députés qui se mouillent un peu, en essayant de tourner au ridicule. Ils essaient, par des biais religieux, de vouloir freiner ou faire de la mauvaise publicité. Mais je pense que dans quelques années, ils se rendront compte que c'est une des meilleures musiques qui existent et que les gens de ce milieu ont un savoir-vivre que d'autres milieux peuvent envier. On a interviewé la région de Clisson après le Hellfest, voir le nombre de personnes que ça ramène dans l'entourage et le nombre de problèmes qu'il y a ensuite. Et faire une comparaison avec d'autres milieux, que ce soit sportif ou que ce soit autre milieu culturel. Et après, ils tirer des statistiques. Et qu'ils aillent voir ces statistiques avec les pays scandinaves, les cultures rock qu'il y a, les taux de délinquance et tous ces trucs, et qui tirent un peu des leçons. Qui regardent un peu différemment les gens qui aiment le rock. Et ça, c'est très très français. C'est le genre de mec qui applaudit ou qui devient fan de hard rock quand des AC/DC remplissent des stades. Quand il y a des Hellfest, c'est les gens qui applaudissent. Mais ils sont rock ou ouvert d'esprit ou metal deux ou trois jours. Et ça c'est typiquement français. Il y a un côté, je suis le navire, je suis AC/DC, je suis fashion AC/DC pendant 2-3 jours. Non, ça n'en veut pas, non.
Bien. Dernière question qui vient de notre ami Julien, qui est quelque part dans le Hellfest. On a avancé l'interview, donc il n'est pas pu venir. Donc question à la con de Jules Melon, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. En tant que Marseillais, êtes-vous passionné par l'OM et le foot en général ?
Personnellement, pas du tout. Je voudrais peut-être être le seul Marseillais, donc je vais me faire des ennemis. Mais bon, à Marseille, non, moi je suis vraiment pas là-dedans. Après, je pense que dans le groupe, il y en a qui aiment vraiment ça, donc ils vont pouvoir te répondre.
Je me sens pas concerné non plus.
D'accord. Moi, je suis très attaché à mon club.
Donc champion cette année ?
Et l'année prochaine.
Et allez, dernière question de Jules Melon pour l'élimination des Bleus hier soir, enfin la quasi-élimination.
Moi, comme je suis quasiment mexicain, j'étais content pour le Mexique.
Et Valbuena qui est rentré pourtant.
Ouais, c'était tellement symbolique. Moi, j'ai jamais supporté cette équipe de France. Et cette année, cette Coupe du Monde ne m'a pas donné envie de la supporter. Quoi. J'ai trouvé ridicule.
Merci les Dagoba et allez l'OM. Hein. Distortion.
Distortion. Gros son. Double grosse caisse. Grosse guitare. Tout le métal est sur la grosse radio métal. Distortion.